et accueillir du public dans ce but-là. Voilà, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de la Bretagne, des territoires, des paysages, et puis aussi, je crois que c'est vraiment la question de l'écoute, de la fraternité, de ce qui peut nous réunir
sur ces thèmes-là.
Voilà, donc on est très heureux toutes les deux de pouvoir parler.
Allez.
Moi, je suis désolée, je vais faire des allers-retours à cause de mes enfants qui sont petits, mais j'aimerais bien pouvoir rester jusqu'au bout. Hein. Je reviendrai, je repartirai, excusez-moi, je rallumerai le feu. Enfin, je suis toujours un petit peu en train de tourner autour. Quoi.
C'est...
Voilà, c'est bien. Merci.
Est-ce que si j'enregistre, ça te va? Parce que j'ai des amis qui n'ont pas pu venir, qui m'ont demandé d'ailleurs de te saluer, André et Béatrice Scherbe. Et je leur ai dit, je vais poser la question si on peut avoir des bribes de nos échanges. Ça leur fera très plaisir. Voilà.
Si ça dérange personne.
Alors, c'est un exercice que je ne fais pas. D'habitude, j'organise des choses. J'invite des auteurs, des artistes. Je trouve les bonnes personnes pour parler avec eux. Puis après, j'écoute. Et donc, l'idée, ce sera d'ailleurs pas forcément de m'écouter moi, mais bon, déjà, on est là pour toi. Et puis, n'hésitez pas à intervenir avec vous, avec ce que vous avez comme influence, comme lecture, comme vie. En échange, qu'on ait lu ou pas celui-ci en particulier. D'ailleurs, je trouve que c'est une rencontre qui fonctionne aussi au préalable et qui donnera, à mon avis, envie de lire le livre. Voilà, sentez-vous libre, quoi. Soyez vous-même. Soyons nous-mêmes tous ensemble. Et alors, pour commencer, en fait, en lisant le livre, j'ai eu plein d'idées d'introduction. Alors, aucune conclusion, mais ça, ce qui est fini n'est pas tout à fait mon affaire. Et finalement, je me suis dit qu'on pourrait tout simplement commencer en musique. Voilà. Alors, si ça marche, normalement c'est testé.
Je ne suis au courant de rien.
Non, j'ai rien dit, non, voici, je pense que...
Donc je découvre comme vous.
Voilà, tu auras après la primeur de réagir ou pas.
Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, que je bourlingue et que je fouine sur cette terre qui va changeant, parfois vers joie, parfois vers ruine. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans à chanter devant petits et grands dans les tohus bohus du temps. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, au total c'est la soixantaine. C'est trop peu pour dire je vous aime et pour crier sur tous les toits que je suis à tu et à toi, pour tutoyer l'univers même. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, pourtant mon enfance est si proche. Je l'ai gardée tout dans ma poche, sans vouloir la quitter jamais. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, je suis à l'école des enfants pour pas perdre le goût du rire, ni celui-ci rafraîchissant de l'émerveillance finie. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans, excuse du trou, j'ai l'envie de visiter les Australies, de vivre encore cette fois cette vie, et souhaite, soit dit en passant, aborder à l'envers du temps, léger comme une plume au vent. Ça fait 40 ans que j'ai 20 ans.
Et qui chantait ?
Julos Bocarme.
Ah oui !
Julos Bocarme, un chanteur... belge,
oui.
Qui est décédé il y a relativement peu de temps.
Qui a chanté Kissinger, ok.
Absolument, voilà. Mmh. Et qui est un poète. Mmh. Et qui a mené une vie très libre de poète, en chantant, voilà. Et qui a continué à mener cette vie qu'il décrit dans cette chanson, après un drame absolument inouï. Sa femme avait été assassinée. Et il a écrit, après cet assassinat, il a écrit un texte extrêmement impressionnant, où il s'adresse en particulier aux meurtriers. Voilà. En étant au-delà de la douleur, au-delà de lui-même, d'une certaine manière, c'est un magnifique texte, quoi, d'une extraordinaire humanité. Voilà. Voilà. Donc, Julos Bocarn est cité dans le bouquin parmi 50 chanteurs. Mais c'est Julos Bocarn qui arrive ici. Et après tout, c'est très bien. Il était toujours en pull, en gros pull. Qui n'étaient pas des pulls que l'on achetait dans le commerce, quoi, qui étaient des pulls comme on faisait jadis, puisqu'on faisait des pulls jadis. Mmh. Il avait des pulls arc-en-ciel, et c'était un monsieur qui a toujours vécu à hauteur d'homme, quoi, enfin en humanité, vraiment. Enfin, voilà. C'est un très beau personnage, Julos Bocarn, un poète.
Il y a le poète, et puis il y a le texte.
Alors ça, c'est dégueulasse.
Bah, autant rentrer dans le vif du sujet.
De parler du poète pour oublier le texte. Et je me suis dit, est-ce que je suis directement visé là, tout de suite, vraisemblablement.
C'est aussi comme ça que tu commences, quasiment dans les premières pages, ton ouvrage.
Ouais. Oui, oui, mais... J'ai eu souvent l'occasion de le dire, je crois que on a tort quand on dit qu'il faut se retourner vers son passé. Il n'est pas derrière nous, il est en nous. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, il y a le gamin de 10 ans, le jeune homme ou la jeune femme de 20 ans. Elles ne sont pas derrière nous, ils ne sont pas derrière nous, ils sont en nous, on continue à les porter. On a été ça. Dans tout vieillard, il y a un garçon de 14 ans, enfin, je veux dire, évidemment. Alors, après, il y a d'autres strates, la vie, les expériences, les drames, les émerveillements construisent des couches, mais ces couches-là ne suppriment jamais celui qu'on a été quand on avait 20 ans, comme dans la chanson. Et ça reste en nous, et je crois qu'il ne faut pas le faire taire non plus. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire vivre toutes ces... Alors, évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Parce qu'il y a des réalités quand même. Quand on a 70 ans, on a 70 ans. Mais enfin, quand on a 70 ans, on a toujours eu 14 ans. Voilà. Après tout. Hein. Donc on a le droit d'avoir un peu 20 ans. Même à 60 ou plus.
C'est l'émerveillance infinie, il le dit dans son texte.
C'est ça.
Et justement, ce livre, il arrive là, maintenant, à quelque chose près. Je ne sais plus comment il a été publié exactement, il y a un an.
Il est sorti il y a un an.
Et à un moment, tu parles d'héritier aussi dans ton livre. Est-ce que c'était un bon moment? Et surtout, peut-être la première question, ce serait pourquoi ce livre-là maintenant et pour qui?
Je ne sais pas répondre précisément à cette question-là, mais ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est vraiment un exercice de gratitude. Voilà. J'arrive à un âge, j'ai 68 ans, j'arrive à un âge où on commence à faire des bilans, après tout. Et on peut en faire à tout âge, hein, bien sûr, mais enfin, bon, peut-être un peu davantage quand on arrive à 70 ans. Et j'avais envie de dire merci parce que... Et ça, c'est une leçon universelle, c'est pas propre à moi. On est le fruit de rencontres successives, de rencontres avec des gens, de rencontres avec des événements, de rencontres avec des paysages, de rencontres avec des territoires. On porte tout ça en nous. Et c'est pas banal. J'avais envie de faire un livre pour dire merci, tout simplement, à tous ces gens dont j'ai croisé la route, et qui m'ont aidé à être ce que je suis, à tous ces paysages que j'ai croisés, qui m'ont émerveillé, et qui m'ont aidé à être ce que je suis, à toutes les œuvres que j'ai croisées. Mais je n'ai pas voulu faire un inventaire des gens célèbres que j'ai croisés, parce que là, les chances de la vie, moi, je suis né dans une famille heureuse, plutôt, pas argentée, mais enfin qui vivait bien, Et donc, les... après, j'ai de la chance, je veux dire. Mais, et donc, j'ai croisé des gens qui sont, entre parenthèses, célèbres. Bon. Mais ce n'est pas ça du tout l'objectif de ce livre. C'est de dire merci à des anonymes, parce que dans mon enfance, à dans une ferme à Guingamp, de la région de Guingamp, mes voisins, qui n'étaient jamais allés à l'école, comme mon grand-père, qui n'était pas allé beaucoup à l'école, ils m'ont appris énormément de choses. Et je leur dois à eux, qui sont ce que... un autre sociologue, s'il y a deux sociologues célèbres dans l'histoire de la sociologie, il y a Alain Villebrault et Pierre Sansot, l'autre, donc pas Alain Villebrault, mais l'autre, donc je dis ça parce qu'on a la sœur d'un sociologue connu, qui est un ami personnel, qui est là. Et c'est un private joke complètement nul, en fait, que je viens de faire. Alors, Pierre Sansot parle des gens de peu, des gens de peu. Alors l'expression, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des gens de peu, bon, il l'explique. Moi j'ai rencontré des gens de peu, des marins pêcheurs de Douarnenez qui m'ont donné des leçons de vie que je porte en moi jusqu'à mon dernier souffle. Et évidemment, des leçons de vie vraisemblablement plus importantes que les leçons que m'ont donné des professeurs éminents à l'université. Des femmes d'usine de Douarnenez, on parlera bientôt à Douarnenez pendant plusieurs mois, du centenaire des grèves de 1924, les grandes grèves des femmes qui vont amener une ouvrière d'usine de Douarnenez à être conseillère municipale, élue 20 ans avant le droit de vote des femmes. Évidemment, elle a été invalidée, mais elle a siégé 6 fois, cette dame. C'était une ouvrière d'usine qui n'était pas allée à l'école, qui est la première élue en France. Elles étaient 7 au total. Les autres dans la banlieue rouge, disait-on à l'époque, de l'agglomération parisienne, et une femme d'usine en coiffe de Douarnenez qui a été conseillère municipale du mois de mai au mois de décembre 1925. J'ai rencontré des femmes d'usine, beaucoup, à Douarnenez, et elles n'étaient pas allées à l'école, mais elles m'ont aussi donné des leçons de vie, des leçons de solidarité, des leçons de groupe humain, extrêmement âpre, extrêmement fort et extrêmement beau. Voilà. Quand vous discutez avec des marins pêcheurs qui ont été embarqués à 12-13 ans et qui ont vu périr en mer un proche, si vous voulez, et quand ils vous racontent ça, une tempête et un membre de l'équipage qui tombe et qu'on ne peut pas le sauver, et que ces messieurs-là, ils ont à l'époque 60, 70 ans, ils se mettent à chialer, vous prenez des leçons que vous n'oubliez pas sur la solidarité, sur les relations humaines, etc., etc. Bon, voilà. Donc moi, j'ai voulu faire un bouquin, un moment, pour dire merci. Dire merci, parce que la vie est faite de rencontres. Toute vie est faite de rencontres. Voilà. Ben, à un moment, j'ai senti le besoin de dire merci. Voilà. À des gens, à des paysages, à des territoires, à des événements. Klogoff est un événement qui, à ma génération, m'a marqué, le combat contre la centrale nucléaire de Klogoff. J'y suis très souvent allé, à Klogoff, tous les jours, en fait, j'habitais Douarnenez. On allait à la messe de 5 heures quand les CRS quittaient Klogoff. Voilà, bon, bref, Klogoff, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, pas uniquement pour les raisons politiques d'un combat anti-nucléaire à l'époque, non, ça m'a marqué par les rencontres avec des gens de Klogoff. Quel était ce lien qu'ils avaient à leur territoire pour que des grands-mères qui étaient comme mes grands-mères, quoi. Elles ressemblaient à ma grand-mère, ces dames. Elles avaient peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui, mais moi j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et donc elles étaient avec leur sarrau et leur blouse, et elles mettaient des cailloux. Et puis elles disaient aux jeunes, « Oh ma, prends le caillou dont elle lance-le !» Quand vous voyez une dame qui avait la tête de ma grand-mère, et qui est là avec son sarrau, pour ramasser des cailloux, et qui dit « Lance le don sur les CRS !» Vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Quand je me rappelle avoir vu, ça m'a profondément troublé, ça, à l'époque, à Klogoff, les anciens combattants. Moi, j'étais antimilitariste, évidemment, j'avais 20 ans. Bon, ancien combattant, j'étais fils de militaire en plus, et à ce moment-là, après l'adolescence, relation un peu difficile avec mon père. Bon, ça s'est résolu très vite. Mais bon, à l'époque, on a 20 ans. Et là, je vois les anciens combattants qui arrivent avec les drapeaux des associations d'anciens combattants devant la mairie de Plogoff. Alors il y avait les anciens d'Algérie, il y avait les anciens résistants, il y avait plusieurs drapeaux, les porte-drapeaux qui arrivent. Parce que la maréchaussée arrivait pour prendre Plogoff. Il y avait eu des barrages à l'entrée de Plogoff. On avait fait sauter un pont pour qu'ils ne passent pas. Ils étaient passés grâce à l'armée et ils arrivaient dans le bourg de Plogoff. Et voilà qu'un peu en majesté, pour moi, les drapeaux bleu, blanc, rouge arrivent avec les porte-drapeaux. Et ils mettent ça sur la rue à Plogoff, hein, en disant « les chars passeront pas là-dessus parce qu'ils n'oseront pas rouler sur nos drapeaux. » Voilà. Nous, on est là, on est des gosses, quoi. On regarde ça. C'est des vieux monsieur, quoi. On se dit « putain ». Puis les chars arrivent. Vrouf, droit dessus. Et on voit ces vieux monsieur, dont un, c'est un souvenir marquant, un qui pleure, quoi. Putain, ils ont roulé sur nos drapeaux. Bon, si je raconte l'anecdote, c'est ce lien à une histoire, à un territoire, c'est charnel, tout ça. Ça m'a marqué profondément. Au-delà d'Haroun Taziev, c'est pas Haroun Taziev à l'époque qui va me marquer, ou des grands personnages qui sont venus. Non, c'est ça. Ces relations humaines qui, quand on a 20 ans et qu'on les croise, vous marquent profondément, quoi. Voilà. Donc, exercice de gratitude. Je réponds peut-être pas bien à ta question, mais c'est ça qui me vient. Le besoin de dire merci à tous ceux qu'on a croisés et qui nous ont construits, en fait.
Je vais te citer, parce qu'il me semble que dire merci, finalement, c'est une façon d'accepter l'héritage.
Bien sûr.
Et donc, je pense que c'est mieux de plonger dans tes mots à toi. Tu écris « Malheur à celui qui n'a pas d'héritier. Le patrimoine ne va pas de soi. Il ne suffit pas d'une trace léguée par l'histoire. Il faut aussi un héritier pour l'entretenir ou la restaurer, la contextualiser, lui donner sens et l'offrir au monde de demain. Sinon, c'est l'oubli, c'est la ronce. »
Oui, on est un maillon d'une chaîne. C'est des banalités que je vais dire, là j'enfile des perles. On est le maillon d'une chaîne. Il ne faut pas oublier ceux qui nous ont précédés, qui nous ont construits, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a d'une certaine manière, devoir de transmission de valeurs, de transmission de ces émerveillements dont je parlais tout à l'heure, de transmission de relations. L'oubli, c'est la ruse du diable, dit-on. C'est vrai, c'est terrible l'oubli. Des marins pêcheurs de Douarnenez méritent que leur histoire soit connue, que ça soit transmis. Des femmes d'usine méritent qu'il y ait une transmission, que l'on sache ce qu'ont été leurs vies. Il y a peu de livres sur ces vies-là, somme toute. Voilà. Et donc on reçoit des héritages, on les interprète, on les... comment dire, comme une pâte qu'on va reconstruire, réaménager, et puis l'histoire continue. On n'est qu'un maillon, et je crois qu'il faut avoir à l'esprit les deux éléments, ce qui nous vient d'avant, et ce que l'on va léguer aussi à ceux qui viennent derrière. Moi j'ai été très heureux, je vois une ancienne étudiante dans mon regard. Moi j'ai eu un métier magnifique, enfin c'est le plus beau des métiers, de transmettre ce qu'on a un peu appris de ces expériences et de les transmettre à des gens qui sont là, avec qui on... Après, ils font c'est comme moi, je fais ce que je veux des héritages que j'ai reçus. Après, eux, ils font ce qu'ils veulent de ce qu'on leur apporte. Mais c'est l'idée du maillon, c'est l'idée de... Voilà, d'un passage sur Terre qui est court pour tout le monde. Quand on arrive, on a reçu plein de choses. On a reçu de l'amour, très souvent, pas toujours, parce qu'il y a des drames aussi dès la naissance. Bon, bref, mais en ce qui me concerne, moi j'ai reçu beaucoup d'amour au début. Voilà, je suis d'une famille comme ça, très aimante. On apprend des choses, on s'enrichit. Et le meilleur des enrichissements, c'est les relations humaines. Enfin, bon, voilà. Et puis on fait son truc avec ça et on transmet, voilà. Et après on a des enfants, on a des étudiantes, et puis la roue continue, c'est bien, voilà. C'est la vie, ça. Je dis que des banalités. Hein. Je suis désolé. Elle va regretter de m'avoir invité.
Absolument pas. Non, justement, c'est ce que j'ai trouvé très, très émouvant aussi. C'est à la fois d'être avec ce livre, on s'est déjà rencontrés au préalable dans d'autres contextes, plus universitaires, avec aussi des recherches, des discours, des approches plus universitaires. Et en fait, de plonger dans ce récit, moi j'aurais bien écrit sur la couverture récit géopoétique, parce que ça traverse plein de choses, autant de l'histoire, des histoires, des émotions, des sensations, des sentiments,
oui.
Des faits aussi, oui. Des grands noms, des petits noms. Enfin voilà, tout ça se mêle avec une...
Sans hiérarchie.
Sans hiérarchie, voilà. Oui. Tu prends l'image du rhizome qui n'a pas de hiérarchie, qui a plein d'entrées dans tous les sens, pas de milieu, pas de circonférence. Et c'est vrai que c'est très touchant. Et toute la première partie, mon pays de Mon pays dans le ciel, donc qui s'intitule Mon pays dans le ciel, bah peut-être tu veux raconter pourquoi. C'est assez joli, je pense que tout le monde n'a pas lu le livre.
Oui, oh non, c'est une anecdote de gosse.
Ouais, c'est beau.
Je ne sais pas quel âge j'avais 10 ans peut-être. Et donc mon grand-père était paysan et il n'avait pas de montre. À l'époque, les vieux, ils n'avaient pas de montre. Et à midi et à 7 heures, on entendait les sabots dans la cour, quoi. Et comment ils faisaient, quoi? Bon, on est gosses, quoi. Puis un jour, dans un champ, je lui demande, c'était un ciel de cumulus, comme il y avait aujourd'hui, un magnifique ciel. Là, je suis venu tout à l'heure du Finistère pour venir ici, là, aux alentours de l'Orient, il y avait un ciel de cumulus incroyable. C'était d'une beauté. Bon, bref. Donc, il y avait un ciel avec plein de cumulus. Et je lui demande, mais comment tu fais pour savoir l'heure? Pour arriver juste à midi, quoi. Et le soir, pour arriver à 7 heures. Et il me dit, je lève la tête. Et quand je vois mon pays dans le ciel, c'est que c'est l'heure de rentrer. Je sais pas, il me sort ça comme ça. Alors, l'histoire est vraie. C'est pas d'où ça lui est venu, mais bon. Et moi, j'ai cherché la Bretagne dans les cumulus de 10 ans à 14 ans, aux alentours de midi ou de 7. Mais des fois, il n'y a pas de cumulus du tout, c'est un ciel totalement bleu. Bon, voilà. Ça, c'est l'histoire d'un gosse. Voilà. Qui ne sait pas trop quoi faire de ce qu'a dit le grand-père. Qui était le vieux sage, qui parlait peu. Mais là, bon. Et puis, je boucle l'histoire parce que mon pays dans le ciel, en fait, c'est la beauté du monde. C'est, on lève la tête, on voit des arbres, et c'est beau. On voit des ciels, comme je voyais tout à l'heure en venant, et c'est beau. Et mon pays dans le ciel, c'est la beauté du monde qu'il ne faut pas oublier, en fait. Voilà. Alors, ça ne nous dit pas à quelle heure il faut rentrer pour manger la soupe. Mais ça ouvre sur, je sais pas, je n'ai jamais su ce qu'il voulait me dire, en fait. Mais peut-être que mon pays dans le ciel, c'est la beauté du monde que l'on voit dans les ciels, si l'on prend le temps de les regarder. Voilà. Et je me dis que c'était peut-être ça. Voilà. Qu'un paysan un peu illettré ne savait pas formuler avec des mots, peut-être, je sais pas. Enfin, bon, voilà. D'où le nom du livre, Mon pays dans le ciel.
Et la deuxième partie, c'est Stèle, et qui forme une sorte de grande galerie de portraits, des hommages, enfin des remerciements plutôt. Enfin,
oui.
Ce sont les deux mêlés certainement.
Oui, la première partie, Mon pays dans le ciel, c'est une histoire, c'est la mienne, qui est à la fois très singulière, comme toute histoire, et j'espère, et c'est l'exercice littéraire que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si c'est réussi, c'est d'être à la fois très personnel et très universel. C'est-à-dire... l'histoire qui est la mienne, précisément, sans tomber dans l'anecdote qui ne pourrait intéresser éventuellement que mes enfants, et encore c'est pas sûr, mais sur une ligne de crête entre le personnel et l'intime et l'universel générationnel, en quelque sorte. Et donc c'est à la fois mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de la Bretagne, des années 60, 70, 80, enfin toute ma jeunesse, quoi. Voilà. J'essaye de tenir la ligne de crête. Et c'était pour moi la difficulté. C'est-à-dire faire l'histoire contemporaine de la Bretagne, j'ai déjà fait, et j'avais plus envie de faire ça. C'est un travail universitaire, et je veux plus faire des travaux universitaires, j'en ai fait beaucoup, et c'est fini. Faire un bouquin purement intimiste, qui, je le répète, ne pourrait éventuellement intéresser que mes fils, bon, je peux faire ça et leur donner le manuscrit, mais bon, ça fait pas un livre, quoi. Et donc j'ai essayé de tisser les deux. L'intime et le générationnel. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Enfin, c'était la tentative de Mon pays dans le ciel. La deuxième partie est une partie plus simple, on va dire. C'est une somme d'hommages à des gens qui m'ont marqué. Voilà. Qui souvent sont connus, d'ailleurs, Glenmore, Xavier Graal, Georges Perros. Voilà. Je vais en revenir au sociologue célébrissime Alain Villebrot, qui vit à Douarnenez dans une maison où a vécu Georges Perros. Et là, je suis devant un bouquin de Georges Perros, Poème bleu, voilà, qui a peut-être été en partie écrit chez ton frère. Voilà. Et, ou Une vie ordinaire. Et donc, c'est une série de portraits de gens qui m'ont profondément marqué, dont un prof de l'UBS, qui s'appelait François Chappé, que tu as eu.
Oui.
Que tu as eu.
Ah ouais,
la dernière, les derniers temps, qui est décédé en 2007.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et qui est un personnage de films de Costa Rica ou de je ne sais quoi. Comme on en croise, moi j'en ai croisé qu'un dans ma vie, comme lui, qui était à la fois un grand savant, un intellectuel. Certains professeurs à la Sorbonne ont dit de lui qu'il aurait pu être professeur au Collège de France, parce que c'était une puissance intellectuelle et une capacité hors norme. J'avais jamais vu un bestiau pareil. Mais, qui était un incroyable compagnon de troisième mi-temps. Mais excessif et tonitruant. Et le problème, c'est que le compagnon excessif de troisième mi-temps l'a empêché d'être prof au Collège de France, parce que c'était excessif en tout. C'était Pantagruel et Paul Ricoeur, mais dans un même, quoi. Ça le fait pas. Voilà, donc François Chappé. Donc François Chappé a un chapitre, évidemment, de ce bouquin, parce qu'il m'a profondément marqué. Mais c'est autrement, c'est Xavier Graal aussi, enfin, qui est là. Et quelques autres. Stèle. Voilà. Et j'ai repris le très modestement, ou immodestement, enfin, je sais pas, des fois on fait des trucs. Stèle, c'est Galin, mais Stèle, c'est, pour moi, c'était surtout Xavier Graal, Stèle à Lamennais. Félicité de Lamennais, un grand intellectuel catholique du 19e siècle, un peu père du catholicisme social, dit-on. Xavier Graal a écrit un bouquin fulgurant sur Lamennais qui s'appelle Stèle pour l'amener, une stèle, il a posé une stèle pour l'amener. Voilà. Et donc, je me suis permis de poser quelques stèles à des gens connus ou des gens beaucoup moins connus, voilà, mais qui m'ont profondément nourri. Voilà.
Donc on a le ciel, on a la terre.
Oui.
Il y a quelque chose, je trouve, dans la façon de mêler le récit, d'être sur cette ligne de crête. C'est une phrase de Talcott que j'aime bien, où il dit « Le ciel n'est pas distinct de la terre ». Oui. C'est quelque chose de très marié dans le récit et puis dans l'expérience de la Bretagne aussi.
Oui. Pour moi, la Bretagne, c'est ça aussi, c'est le vent. Enfin, voilà, c'est les ciels dont je parlais tout à l'heure, mais le vent, c'est un pays de vent. On vit dans le vent. Quand on vit en Bretagne, j'ai longtemps vécu à Douarnenez, on vit dans le vent. Enfin, on l'entend, le vent, et on le voit. Enfin, il est là. Des fois, il est tranquille, des fois, il est tempétueux, mais enfin, on est dans le vent. Et le vent, ben, c'est déjà l'immensité, c'est sans limite, c'est sans frontières, et c'est déjà le ciel. Enfin, bon, voilà. Et quand on vit, on marche à pied. Voilà. Évidemment, on peut prendre des voitures, mais enfin, la vie, le quotidien, on marche à pied, on marche sur un sol, on marche sur une terre. Voilà, moi, je suis originaire de Guingamp, comme tout gosse de ma génération, on courait, on marchait, on faisait du vélo. Le territoire, on le sent, au sens premier, on le sent. Les odeurs de la ferme, on les connaît. Les bruits, on les entend. On sait que telle cloche, en fonction le vent qui vient de l'est, de l'ouest, on sait les cloches des églises. Bref, la terre, le son, les sens, enfin, tous les sens sont mobilisés quand on vit dans un territoire. Et voilà, c'est, là encore, c'est un propos très banal. Mais il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas être que de chiffres et d'ordinateurs. On est aussi de chiffres et d'ordinateurs. Mais enfin, on a le droit d'aller se promener, quoi. Et aller voir des ânes. Voilà. Et quand on va derrière, là, et qu'on voit des ânes, on voit des grands arbres. Et quand on se promène, on sent le vent. On est dedans. On est vivant. Voilà. Et je crois que l'homme a oublié qu'il faisait partie d'un tout qui s'appelle le vivant. Et on a trop segmenté depuis le 19e siècle, les logiques économiques, productivistes, on a segmenté tout ça avec une logique très utilitariste. Les animaux vont nous, on va les utiliser. La nature, on va l'utiliser. Et on va dominer tout. Et on est dans une civilisation qui, très prométhéenne, qui a cru qu'elle allait pouvoir tout dominer. Les éléments, les animaux et parfois aussi les autres êtres humains. C'est ce qui s'est passé. Enfin, voilà. L'empire, etc., le colonialisme, etc. Bon, bref. Bon, ben, il est peut-être temps d'y revenir. Parce que l'on voit que toutes ces aventures inouïes du 19e et du 20e siècle, qui vont amener des progrès fulgurants, incroyables. Enfin, l'électricité, l'Internet aujourd'hui, c'est des aventures incroyables. Mais enfin, qui ne doivent pas nous faire oublier qu'on n'est rien du tout parmi le vivant et que qu'on a besoin des arbres, qu'on a besoin des haies et qu'on a besoin des animaux, etc. Et, par exemple, pour soigner, comme ici, dans ce lieu, où des ânes et des biquettes vont soigner des gamins ou des adultes. Bon, voilà. On fait partie d'un tout. Voilà. Et quand on se promène, il ne faut pas l'oublier. Je crois, enfin moi je le ressens très profondément ça. C'est ce que tu appelais peut-être tout à l'heure la géopoétique, ça naît de là. C'est-à-dire ne pas oublier ce que l'on doit à l'ensemble des chaînes multiples du vivant. Voilà. Que ce soit animaux, humains déjà, animaux et végétaux. Enfin, voilà. Et essayer de tenter un équilibre qui a été rompu depuis le 19e et le 20e siècle. Radicalement rompu au nom de chiffres et de quantités. Alors, pour autant, il ne faut pas non plus tout jeter, parce que les chiffres et les quantités permettent de nourrir, etc., etc., 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards d'êtres humains. Mais, interrogeons-nous sur les points d'équilibre, parce que si on ne s'interroge pas aujourd'hui sur les points d'équilibre, demain, on sait que c'est trop tard. Voilà, ça me semble du simple bon sens, aujourd'hui. C'est un enjeu qui me dépasse largement.
C'est vraiment aussi pour ça qu'on avait souhaité t'inviter avec ce livre. C'est que peut-être qu'on peut dire quelques mots de la Navenne, justement, de ce projet qui vient en résonance avec ce que dit Jean-Michel. Tu as envie d'expliquer un peu ce qui se passe ici?
Oui, ce qui se passe ici, c'est effectivement un lieu... En fait, c'était un lieu qui était au départ pensé pour être une résidence d'artistes. Et où les animaux devaient participer au titre d'artistes, comme les autres d'ailleurs, parce que je travaille depuis quelques temps dans le spectacle équestre, donc les chevaux artistes, voilà, ça me parlait. Et en fait, ils ont choisi la dimension thérapeutique du lieu, et le lieu, enfin, il se trouve que je suis psychologue aussi, donc forcément, il y avait de toute façon une pratique thérapeutique et clinique, mais les animaux ont vraiment orienté le lieu et choisi... qu'on prenne soin en fait de ceux qui nous rendaient visite, et on s'en est rendu compte très vite en fait à leur côté que les gens qui venaient pour différentes raisons d'ailleurs, et encore aujourd'hui hein, qui viennent pour différentes raisons, souvent un animal se détache du troupeau, vient vers une personne, et il y a une dimension très profonde, une rencontre très profonde de quelque chose qui souvent est thérapeutique en tout cas, et toujours très riche. Il ne peut pas se faire de... C'est autre chose que la pédagogie, que les termes pédagogiques, que des démonstrations, que du spectacle. C'est encore autre chose. C'est vraiment la rencontre au sens plein. Et je pense que c'est aussi ce que ce lieu a décidé, parce qu'en fait, ce lieu décide pas mal de choses. et choisi aussi énormément de choses. Voilà, alors, je ne sais pas si tu veux aller plus loin, ça va être un peu long, mais quel pourrait être l'axe. Bah, ici, en fait, on est quand même une part du troupeau qui nous entoure. En fait. J'allais dire tout à l'heure qu'ils allaient peut-être s'inviter, je ne sais pas quels animaux vont peut-être venir parmi nous, mais ils avaient très envie de venir, tous ceux qu'on a croisés, là, qui ont présenté Jean-Michel. Et nous, il faudra qu'on songe à des rencontres littéraires dans la prairie, je pense. c'est un projet au Mésanvie, je pense. On aura forcément des idées sur les rencontres littéraires dans la prairie, parce que c'est qu'il y a un projet sur les prairies qui est absolument passionnant, voilà. Qui met en scène aussi les animaux et le vivant et la nature qui nous entoure. Donc on vit au plus proche de la nature ici, souvent dehors, avec les éléments, à ressentir aussi le froid, à ressentir le vent, à ressentir
la gadoue,
la terre aussi, l'eau, l'humidité beaucoup. Voilà, on est quand même dans une zone assez humide qui est balayée par les eaux. Il y a beaucoup de veines d'eau qui passent sous la ferme. Voilà, on vit avec tout ça. Et c'est chouette, c'est ok. C'est aussi un choix. Enfin, en tout cas, ceux qui sont ici l'ont choisi, je crois, sous leur contrôle. Mais c'est vrai que le lieu choisit pas mal de choses aussi.
Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça, le lieu qui choisit des choses?
Oui, je crois qu'il faut être, ouvert à ça, bien sûr. C'est le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme a vécu une période de toute puissance, d'absolue puissance, et a oublié tous ces messages-là. Mmh. Voilà. Et il faut savoir les écouter, parce qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas un propos que je lance comme ça, un peu... C'est qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire que si on n'écoute pas les rythmes de la Terre, on sait où on va. On va droit dans le mur. Bon, toutes les études le montrent. On le sait. Bon, voilà. Et on n'a pas écouté les rythmes de la Terre. On n'a pas écouté la toponymie. On n'a pas écouté ce que disent les lieux. Quimper. On peut prendre cet exemple-là. Quimper, la ville de Quimper. Ça veut dire confluence. Voilà. Quimper. Ça veut dire que, il suffit de regarder la géographie, justement. Mais on a oublié tout ça. C'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, et qu'est-ce qui se passe à Quimper? Beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a eu les régulations des cours d'eau en amont, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle? Eh bien, inondation, tout le temps. Le nom portait, d'une certaine manière, son risque. Il y a trois fleuve côtier qui arrive là, et il y a la marée qui remonte. Oui. Bon. Et donc on construit, et on artificialise tout. Bon. À un moment, c'est logique. Enfin, c'est mécanique. Bon. Et on a oublié que ça voulait dire confluence. Bon. Et donc, dans la dernière partie du XXe siècle, on a réaménagé les cours d'eau, on a réaménagé tous les amonts, les bassins versants, et heureusement, maintenant, les problèmes sont à peu près régulé, mais regardez tout le XXe siècle à Quimper. C'est une série d'inondations. Bon. C'est-à-dire que ce lien que les anciens... Je ne veux pas dire qu'avant c'était mieux. Certainement pas. Je ne dirais jamais ça, parce que je ne le pense pas, tout simplement. Mais, eux avaient connaissance, évidemment, de ces particularités topographiques, de ces particularités de climatiques locales, de tout. Ils avaient cette connaissance empirique, là. Arrive le 19e et le 20e siècle, et c'est la toute-puissance de la machine, la toute-puissance de la production, et on éradique ça. Et donc, il est nécessaire que l'on revienne. On est bien obligé de le faire, maintenant, de toute façon, de réécouter les rythmes de la Terre, le rythme des sols, le rythme des singularités locales, on en a... C'est un impératif, maintenant. Mm. Voilà. Donc, des propos comme ça ne me surprennent évidemment pas. Alors, pour vous dire, je ne sais pas si vous voyez, moi, ça m'impressionne, parce que je fais pas mal de librairies, de médiathèques, de festivals, de salons. Et alors, ça... J'avais quand même rarement vu.
Oui, c'est ridicule.
C'est-à-dire 5, 7 ou 8, on voit régulièrement. Mais là, Et on se dit, mais elle connaît 10 fois mieux ce que j'ai écrit que moi. Et c'est elle qui me pose les questions. Mais regardez ça. Mais c'est incroyable. T'as passé combien de temps?
On ne compte pas.
Alors c'est peut-être toutes les fautes qu'elle a
corrigées.
C'est peut-être toutes les fautes qu'elle a corrigées.
Ou alors c'est peut-être tout ce que ça a fait germer, va savoir.
Moi, ça m'impressionne. Heureusement qu'on ne voit pas ça avant. Qu'est-ce que ça...
je trouve ça relativement... peut-être excessif. Alors, mais si tu as des astuces à partager quand on lit un livre pour... parce qu'on se dit, je le relirai, c'est pas grave, parce qu'on se laisse emmener... parce qu'évidemment, c'est pas la première lecture. C'est pas tout de suite fluo. Et puis, la mémoire fait qu'on se laisse emmener. Il y a le récit, il y a de l'émotion, il y a de la curiosité. On voit tout d'un coup un nom, on va le rechercher dans sa bibliothèque, on se dit, mais tiens, c'est marrant, il y a plein de connexions à cet endroit-là. On commence à se faire son propre récit, en fait. On se dit, mais c'est quoi, mais c'était là, moi. Et donc, il y a des champs de pierres dressées, mais absolument largement au-delà de Carnac. Hein. Je pense que là, dans la prairie, il y en a plein maintenant. Mais par contre, voilà comment on fait pour lire un ouvrage, toi, qui a été très longtemps universitaire, pour retenir les choses, pour pouvoir les synthétiser. Moi, je sais que je me sens très démunie face à ça. Et quand on te lit, à certains moments, j'ai senti comme une sorte d'appétit insatiable, de quelque chose de très ouvert, de très grand, de lecture, de faire même acheter des ouvrages quand tu es en Moselle, très particulier, très précis sur l'art breton, par la bibliothécaire. Et puis, ça fait plaisir partager, de commander l'ouvrage pour pouvoir le donner à quelqu'un. Et puis, comment tu fais pour retenir autant de choses sans avoir besoin de mettre des choses de toutes les couleurs?
Non, c'est très banal. Je prends des notes. Hein. C'est tout, comme tout le monde. Enfin, je sais pas. Bon, voilà. On fait de son mieux, on se débrouille. Non, quand je lis un bouquin, je prends des notes. Mm. Tout bêtement. Pas autant que toi, mais quelques-unes. Quand je vois un film... quand j'entends une phrase, mais même dans le quotidien, je suis un peu éponge. Une émission en voiture, en venant, j'ai toujours des petits cartons un peu froissés dans mes poches, et puis je vais noter 3 mots. Enfin, voilà. Et puis après, c'est des accumulations. Oui. Ça sert pas, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Être éponge un peu. Et être. Bon, et ça, je sais pas, je suis né comme ça, c'est mes parents qui m'ont offert ça, hein. C'est tout. Être toujours en curiosité, quoi. Mm. Voilà. Être toujours en curiosité. Essayer, voilà. Je sais pas. c'est pas un travail, on est comme ça. Moi, c'est mes parents qui ont dû me titiller quand j'étais gosse, quoi. À toujours être curieux, quoi. À lire, toujours est-il que je suis comme ça. Et donc, voilà, une émission, je fais pas mal de bagnoles, une émission, je vais noter 3 mots, un nom, voilà, puis après je vais aller sur internet, puis je vais creuser, et puis on prend des notes, et puis à la fin on en fait des bouquins.
Ça tire des fils, hein. Ça les tisse. Je reviens sur le lieu, ici, donc la Nazen. Vous avez compris que c'était une ferme qui est tournée vers le soin du vivant, au sens très très large. Et puis, la ferme voisine qui s'appelait le Gaec de l'Amitié, le statut a changé, mais c'est toujours de l'Amitié. C'est une ferme qui a été production laitière conventionnelle, donc avec un autre rapport au vivant, un autre rapport à la nature. Et qui là est à un moment charnière, puisque la production laitière s'est arrêtée avec les parents qui sont partis à la retraite, et Yvon va donner suite à ces terres-là en tant que terre agricole. Le projet se dessine petit à petit, je regarde Gaël parce que c'est aussi son compagnon. Et c'est intéressant ici, ce choc en fait des cultures au sens propre comme au sens figuré, enfin en tout cas de la culture de la terre comme de la culture de nos cultures. Et donc, on a là pas mal de gestes différents, de savoir-faire, de savoir-être, qui, qui se nourrissent au jour le jour, qui s'interrogent avec des héritages qui sont forts, avec des héritages que l'on conserve ou que l'on transforme ou que l'on ne garde pas, tout simplement, qui à un moment s'arrêtent et puis dont acte. Et j'en viens à quelque chose là, qui a presque rien à voir, mais quand même. le GAEC, donc, ce sont des productions laitières. Donc, ce sont des vaches, c'est du féminin. Qui sont menées d'ailleurs plutôt par des hommes, parce qu'à la ferme travaille la maman d'Yvon aussi, et puis Yvon et son père. Ici, on est plusieurs à vivre là, on est pas mal de femmes, et on a un troupeau qui est assez masculin finalement, avec notamment au niveau des équidés, finalement uniquement des mâles, des chevaux, et puis une ânesse et un âne. Voilà. Alors après, il y a les chèvres qui remettent un petit peu d'ordre dans tout ça, les chats, les poules, etc. Voilà, et c'est une petite transition pour parler de cet héritage des 30 glorieuses que tu écris patriarcal dans ton ouvrage, et puis aussi cette petite phrase qui a résonné, parce qu'on est là, de ce cheval qui est réservé à l'homme, qui est un animal sacré. Je ne sais pas si voilà, tu as envie de nous expliquer. Dire ce que ça signifie ou si ça signifie juste
non,
ça.
Non, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais travaillé cette question-là. Je note ça dans les fermes autour de chez moi. Les chevaux, c'était la ferme des hommes, effectivement. Et exclusivement, je n'ai jamais vu ma grand-mère, je n'ai jamais vu les paysannes des fermes alentour s'occuper du cheval ou des chevaux. Alors, je ne peux pas généraliser, je n'ai pas fait d'études là-dessus, c'est purement empirique ou intuitif. Enfin, à partir de 5-7 fermes autour, le cheval, c'était les hommes. Et moi, je suis donc un petit garçon à l'époque, et j'ai une sœur, et je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. C'est adulte qu'avec ma sœur, on se rend compte de ça. Moi, j'avais le droit d'aller m'occuper du cheval, quoi. J'avais le droit de nettoyer le cheval, de laver le cheval, je montais sur le cheval, enfin. Et j'avais un attachement très fort, du coup, au cheval que ma sœur n'a jamais eu. Ben oui, tout simplement parce que ma sœur n'allait pas autour des chevaux. Alors, j'ai pas fait d'études là-dessus. Je sais pas. Je ne parle que de ce que je connais. Ma grand-mère s'occupait des vaches. C'était mix les vaches. Mon grand-père s'occupait des vaches et ma grand-mère aussi. Pour traire les vaches, ma grand-mère traillait les vaches. Ma mère savait traire les vaches. Là, c'était mixte, quoi. Mais pas pour le cheval. Voilà. Je ne peux rien dire de plus parce que je n'ai pas étudié ça.
Question.
La question, c'est une simple petite expérience. Ouais.
Ce que ça m'évoque, c'est que c'est comme les tracteurs aujourd'hui, en fait. Maintenant, il y a quand même pas mal d'agricultrices, et puis elles essayent de conjuguer tout ça au féminin, mais c'est quand même une affaire d'hommes. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, la force motrice, peut-être, je ne sais pas. Je l'entends en tout cas de cette façon. Alors après, l'équitation s'est féminisée quand même. Hein.
Oui. Ouais. Tout ça bouge. Et c'est une question, justement, cette ligne qui bouge. À la fin, et alors en le lisant, je faisais le même constat dans ma tête. Tout d'un coup, je lis ces lignes-là, je me dis, mais incroyable. Tu fais ce constat dans les toutes dernières pages, que toutes ces stèles qui sont...
ouais.
Tous ces remerciements donnés, ils sont très... Enfin, principalement à des hommes.
Oui.
Et alors, peut-être que tu auras envie de nous en présenter quelques-uns. Et puis ensuite, j'ai une autre question, mais je la pose maintenant ou après, je ne sais pas.
Vas-y.
Et dans l'hypothèse que la suite pourrait être écrite dans 20 ans, je ne sais pas, est-ce que, ou en tout cas, voilà, est-ce que ça change vraiment? Et est-ce que les rencontres d'aujourd'hui, elles se diversifient? Ou, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu constates? Est-ce que le paysage des rencontres se féminise en termes de celles auxquelles on pourrait ériger une stèle? Je ne sais pas si je formule très bien ma question,
si,
mais
si,
est-ce
si,
que
si,
l'époque
si.
Change vraiment, quoi?
Je l'espère, en tous les cas. Moi, je suis né en 1956. Il y a deux hommes dans la salle. Donc, Donc voilà, pour situer temporellement, je suis né en 56. Je note que les personnes, et c'est le constat que je fais à la fin, les personnes qui m'ont marqué, voilà, c'était des hommes. Alors, est-ce lié générationnellement à un mode éducatif ? Alors, comprenons-nous bien. Je n'ai rendu là hommage essentiellement qu'à des gens qui sont morts. Voilà, mon père est mort il y a un mois. Si j'écrivais le bouquin maintenant, mon père aurait une stèle, par exemple. Mais c'est un homme, encore. Ma mère est toujours vivante. Mais si ma mère finira bien aussi par disparaître, parce que ça arrive à peu près à tout le monde, hein, je crois, du moins jusqu'à présent, si je devais écrire ça après la disparition de ma mère, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vécu jusqu'à près de 100 ans. Si ma mère était décédée, j'allais dire dans la moyenne, plus tôt, quoi, hein, elle aurait une stèle, évidemment. Mais je n'ai pas voulu rendre hommage là à des vivants. Il y a beaucoup de femmes vivantes qui m'ont marqué, heureusement, des femmes que j'ai aimées, des amitiés. Françoise aura peut-être une stèle. Enfin, bon, voilà. Des gens. Mais je note que les personnages morts qui m'ont marqué, c'était des hommes. Alors, je ne sais pas si je suis la dernière génération à vivre ça comme ça, et j'espère que les générations suivantes seront beaucoup plus mixtes. Mais j'ai fait ce constat. Parce qu'on égrène à qui on a envie de rendre hommage, comme ça, bon, mon grand-père, bon, c'était un homme, bon, voilà. Après, des gens, bon, un homme. Puis à la fin, je me dis, mais bon sang de bonsoir, il n'y a que des hommes. Et donc, ouais, mais c'est ma vie, c'est comme ça. Donc, je n'allais pas inventer autre chose. Alors, j'aurais pu. Il y a Mona Ouzouf qui m'a beaucoup marqué. Mais elle est vivante. Alors, je n'allais pas l'enterrer. Bon. Et puis, depuis que j'ai écrit ce bouquin, j'ai vraiment plongé dans l'œuvre, mais je ne l'avais pas fait avant. Je la connaissais, mais sans plus, de Germaine Tillion. C'est depuis 6 mois là, que j'ai vraiment plongé dans l'œuvre de Germaine Tillion. Je ne l'avais pas fait avant. Voilà. Et donc, il n'y a que des hommes. Alors, je suis désolé.
Très bien. Alors, espérons que l'époque change.
Mais oui, c'est ce que je dis.
Mais je pense qu'on en sent des choses.
C'est ce que je dis à la fin. J'espère profondément que les choses changent. Mais bon. Après, oui. Mais les loisirs d'un garçon de mon âge, à l'époque, quoi, et les goûts. Bah, alors, il y a le foot. Et le vélo, le sport. Bon, alors les héros, à ma génération, dans les années 60 et 70, les héros du foot ou du vélo, c'est pas des femmes, dans les années 60 et 70. Bon, bref, les chanteurs. Bon, après, on est un peu plus vieux. Quand on a 10 ans, 12 ans, on pense qu'on va être coureur cycliste professionnel, et donc c'est Jacques Anquetil. Bon. Et puis après on a 20 ans et on dit qu'on ne sera pas coureur cycliste professionnel, ça c'est sûr, mais donc c'est les chanteurs, parce que on achète une guitare et on va devenir chanteur, quoi, forcément, quoi. Bon, et donc mais c'est qui là? Alors c'est Glenn Moore, c'est Serva, c'est Bob Dylan, c'est Neil Young, c'est les grandes stars du rock, c'est après Bruce Springsteen, etc. Mais c'est que des mecs. Bon. Enfin, après, il y a aussi des nanas. Bon, certes, mais il se trouve que si je fais mon panthéon musical, par exemple, j'ai essentiellement des hommes. Je l'avoue.
C'est ainsi.
Alors, il y a des femmes qui, dont je suis les œuvres, mais elles sont toujours vivantes.
Alors, il faudrait peut-être interroger une femme de votre génération,
oui,
et lui demander quelles sont ses stèles, oui, à elle. Parce qu'en, oui, vous écoutant, oui, énumérer tous ces noms-là, je me dis,
et, mais les, oui, miennes. Et les miennes.
Oui, complètement.
Alors on se elles voit... sont féminines, je vous le dis.
Eh ben voilà, ben, tant mieux.
Mais c'est vrai, ouais, c'est
tant
vrai.
Mieux. Tant mieux. Et alors, j'espère qu'à la génération qui nous suit, elles seront mixtes.
Oui, c'est davantage, peut-être, c'est une littérature qui a fait comme ça. Les femmes prennent plus de place, osent davantage s'exprimer et militer.
Oui.
C'est vrai que c'est un peu facile de poser cette question-là depuis ici, parce que finalement, tu livres le récit là, maintenant. Nous, en tant que lecteurs, on se dit, ah oui, alors du coup, comment... Enfin, quels seraient les miennes? Quel est mon parcours? Ça nous réinterroge. Oui. Et puis, je pense même que ça peut nous mettre, ça peut fausser les choses dans la mesure où, moi, en fait, je vais aller en chercher des féministes. Quoi. Ah oui. Parce, mais bon, ça vient de nous aussi, c'est en nous, c'est en moi. Mais voilà, ça serait pas un exercice aussi réalisé avec la même fraîcheur. Oui. Derrière, il y a presque un enjeu qui pourrait se dessiner aussi.
Mais là, j'insiste, ce que j'ai essayé de faire, ce ne sont pas mes influences. Mm. C'est des gens que j'ai pu croiser.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a une relation physique, charnelle, même si elle est ténue, même si elle n'existe pas vraiment. Mais enfin, tous ceux que je cite sont des gens que j'ai rencontrés, quoi, avec qui il y a eu relation. Ce ne sont pas uniquement mes influences.
Oui.
C'est pas du tout un exercice sur des influences. Oui. C'est des rencontres. Tout le bouquin est basé sur la notion de rencontre et de relation. Et c'est Édouard Glissant, voilà, la philosophie de la relation. Tout le bouquin est basé là-dessus. Et donc, mais une relation personnelle ou interpersonnelle, une relation, pas uniquement à partir des livres ou de personnages qui nous ont marqués. Je ne vais pas rendre là hommage à Mendès France ou à Jean Jaurès. Non, du tout. C'est à des gens que j'ai croisés, quoi. Hein. Mm. Bon. Xavier Graal, même si des fois c'est très ténu, une relation qui n'en est pas une, tellement elle est inégale. Mais enfin, il y a le lien, quand même. Voilà.
Il y a une coprésence aussi, parfois. Je pense à ce que tu dis sur Georges Perros.
Oui.
Qui est un frôlement, presque.
Oui, c'est ça.
Davantage qu'une...
Ben oui.
Quelque chose qui cristallise.
Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, Perros. Mm. Je n'ai pas osé lui parler. Parce qu'il m'a tétanisé complètement, je voyais Georges Perros. Oh, je l'avais lu avant de le voir, j'arrive à Douarnenez, je vois Georges Perros. Dans un bar, je me suis mis au comptoir et je l'ai regardé, c'est très con, hein, et je l'ai regardé boire un coup. Voilà. Et donc il y avait un type qui buvait un coup avec deux autres, là ils étaient trois, et puis il est sorti. Et puis voilà, c'est ma seule rencontre avec Perros. Sauf que j'ai rencontré ses trois enfants, j'ai noué relations amicales. Très amical, presque fraternel avec un de ses fils. Et puis je suis allé dans tous ces lieux, et puis j'ai respiré Perros, quoi. Voilà, voilà. Il y a un lien. Mm. C'est pas pareil.
Une incarnation,
oui.
Un lien.
Oui.
Un lien physique.
Oui, absolument.
Mm. Après, le fait qu'il y ait une récision dans les scènes, c'est peut-être lié au fait que générationnellement, vous étiez encore dans des écoles de filles et des écoles de garçons.
Oui, absolument.
Et donc, ça joue sur les stèles aussi, en fait, quelque part. Puisqu'en fait, comme vous disiez au début du propos, on se construit parce qu'on garde en nous l'enfant de 10 ans. Oui, oui, mais sauf que les enfants...
Absolument.
En fait, c'était l'école de garçons avec, les, quelque part, les stèles de garçons et les écoles de filles avec les stèles de filles, quoi.
C'est vrai, on est la dernière génération comme ça. Moi, j'ai connu la mixité qui arrivait derrière moi, juste. Quand j'étais en seconde, c'était le collège qui était tout à fait mixte. Et puis, enfin, j'étais la dernière année. Et je crois qu'en première et terminale, les classes étaient mixtes. Enfin, je suis sûr pour moi. Mais pas avant.
J'ai vécu ça aussi.
Voilà.
Moi, j'ai vu et créé école des filles, école des garçons,
mais
les deux étaient mixtes.
Bah oui, évidemment.
Avec une grille qui séparait les deux écoles transparentes, hein, où on pouvait se saluer d'une école à l'autre, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'un peu suranné, une odeur un peu, un parfum un peu étonnant, un peu surréaliste pour nous, du coup.
Bah oui.
Mais en ayant quand même conscience de cette réalité-là, et qu'on venait après ça, enfin, je pense que c'est ce que tu disais, ce qui reste des mots, des lieux. Tu parles d'un champ, le champ de la chapelle, je ne sais plus, à côté de.
Oui.
Voilà, où finalement le nom permet d'aller retrouver les traces, voilà, qu'il s'agisse d'un lieu, qu'il s'agisse d'une école, etc. Tout ça, ça fait partie de nous bien avant qu'on soit là.
Ah, mais oui. C'est une anecdote comme il y en a dans toutes les communes. Hein. je vais faire des études d'histoire, donc je creuse, et puis je m'intéresse à l'histoire du hameau où il y avait la ferme de mes grands-parents. Et puis, j'apprends qu'il y a eu une chapelle, mais elle a disparu à la Révolution. Elle était déjà en ruine à la Révolution, et donc elle a totalement disparu, quoi. Bon, voilà. Et personne ne sait, évidemment, parce que là, on est dans les années 70, personne ne sait, parce que ça a deux siècles que ça a disparu, quoi. Bon, voilà. Et donc, tout simplement, au cadastre, quoi. Le nom des lieux, Parc Archapelle, le champ de la chapelle, paf, je trouve ça, Parc Archapelle, c'était là, 200 mètres, 300 mètres, un champ, Parc Archapelle. Et donc je vais dans ce Parc Archapelle, et dans ce champ, un champ tout simplement, quoi, hein, et en bordure d'un talus, il y avait une espèce de grand roncier, quoi. Voilà, alors... demande aux paysans et des propriétaires du champ, oh là, il y a un roncier, mais ça, moi j'ai toujours connu ça, on n'a jamais enlevé ça, il y a toujours eu des ronces, là. Bon, bref. Et moi je vais prendre une faucille, c'est tout bête, quoi. Et puis j'enlève des ronces, là, et ben, je trouve des pierres. Il y avait des pierres, là, qui n'avaient jamais été enlevées. En fait, des générations après générations, ils avaient eu la flemme d'enlever toutes les pierres qui étaient là. C'était resté là, il y avait un roncier dessus, ça avait pris, c'était... Et puis c'était, voilà, c'était comme ça. Donc il y avait un bout de champ qui était inutilisé, c'était pas très grand, hein, la moitié de cette pièce, là. Il y avait plein de grosses pierres, là. Et c'était Parc Archapelle, voilà. C'est ça, le lien au lieu, l'histoire des lieux, et tout ça. Et après, moi, ça m'a fasciné, cette histoire-là. C'est-à-dire que, à cet endroit-là, il y a des gens... les mêmes que ceux qui vivaient dans les années 60 ou 70, mais 3 siècles avant, ou 4 siècles avant, ou 5 siècles avant, qui ont construit ça, qui ont construit ça, qui sont venus prier là, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'entretien du lieu, c'était leur chapelle, quoi. Voilà. Pouf. Voilà. Totalement disparu. Je trouve que c'est fascinant, quoi, les... ces porteurs de rêves et d'un plus grand, cette foi qui les portait, qui les amenait là, était plus grand qu'eux, enfin, plus grande qu'eux, enfin, c'était une immensité, c'était leur pays dans le ciel aussi, qui était là. Ils ont fait vivre ça pendant 2 siècles peut-être, 3 siècles peut-être, un lieu comme ça, où ils se réunissaient, voilà, et puis pouf.
Il y a des lieux qu'on ne nommera jamais et qui pourtant ont porté notamment des grandes tragédies.
Oui, tout comme il y a des gens qu'on oublie de nommer. Et je reviens toujours à ça, c'est-à-dire que... c'est pour ça que j'ai voulu même citer, c'est tout bête, hein, c'est un exercice tout bête, les paysans à côté de chez moi, j'ai voulu les citer. Ils n'ont jamais eu leur nom dans un livre, ces gens-là, jamais. Et ils ne risquent pas d'avoir un nom dans un livre. Et pourtant, à moi, qui suis vivant aujourd'hui, ils m'ont apporté des choses que je garde toujours aujourd'hui, des choses sur la solidarité, sur le respect, etc. Enfin, des choses essentielles, des valeurs, quoi. Bon, voilà. Et ils sont jamais cités, ils sont oubliés, quoi. Pouf. Ça n'a pas vécu. Ça n'a pas vécu. Comme la chapelle, là, en quelque sorte, n'a pas vécu. Ben si, ça a vécu, tout ça. Et ça mérite d'être cité, ça mérite d'être nommé. Il n'y a pas que les gens, il n'y a pas que Germaine Tillion, il faut citer Germaine Tillion. Elle a une œuvre considérable, elle est au Panthéon aujourd'hui et c'est très heureux. Et c'est bien qu'un peuple honore des grandes personnalités qui ont éclairé le chemin. Voilà. Mais il y a différents niveaux d'éclairage. Il y a des grands phares, Germaine Tillion, grand phare, formidable, Ravensbrück, l'Algérie, etc. Puis il y a des petites bougies, voilà, dans les hameaux, des gens qu'on croise et puis qui nous marquent. Et je reviens à ces marins de Douarnenez, qui n'auront pour la plupart d'entre eux jamais leur nom dans un livre. Mais bon, leur expérience peut enrichir ceux qui suivent. Voilà, comme l'expérience de Germaine Tillion. Et il ne faut pas faire de hiérarchie, c'est tout autant. Voilà, moi les deux me nourrissent tout autant. Voilà.
Et puis il y a aussi des territoires qui appellent d'autres territoires. Et je reviens à la Nazaine. Moi j'arrive ici quand je reviens d'Allemagne. Et le jour où j'arrive, je suis accueillie par un Allemand qui est en bouffine ici avec ses deux enfants qui parlent quasiment que allemand. Et j'arrive avec ma fille que j'arrache un peu à son école en Allemagne. En plus, l'école Steiner, donc une pédagogie particulière, une relation à la vie particulière. Pour aller dans la jungle du collège unique, voilà. Donc on a heureusement trouvé la Nazen pour voilà, avoir cette vie un peu plus alternative, plus proche du vivant. Et puis, eh ben voilà, on arrive en langue allemande, en fait, dans ce pays. On revient en Bretagne en langue allemande. Et puis, on découvre, enfin, il faudrait chercher et certainement écrire davantage les choses, que ben, finalement, ce lieu, bon, comme beaucoup de lieux en France, est lié à un lien avec l'Allemagne de la guerre, mais pas que, avec une Allemagne aussi, une culture allemande heureuse, d'après-guerre et jusqu'à maintenant, et qu'il y a des échanges très, très réguliers. Alors, est-ce que c'est nous qui les portons et qui les provoquons ? Est-ce que les choses sont en connexion ? En tout cas, ce territoire-là, et c'est aussi un territoire d'ailleurs.
Oui. Mais partout.
De là.
Partout. C'est-à-dire, enfin, il y en a une que je vois là-bas qui a dû m'entendre radoter ça 10 fois, 20 fois. Mais je le répète encore, les cultures ne sont jamais fermées sur elles-mêmes. Et il y a des enrichissements permanents, des relations. Et j'ai souvent pris cet exemple, puisque bon, le bouquin, là, il naît à Guingamp, et, parce que je viens de là-bas. La danse traditionnelle de Guingamp, qui est la danse traditionnelle, que le cercle de Guingamp, d'à côté, bon, là, c'est la première danse qu'on connaît. Alors vraiment, il n'y a pas plus traditionnel que la dérobée. C'est la dérobée à Guingamp, et on va à la Saint-Loup danser la dérobée. Bon, c'est une danse traditionnelle bretonne. Et ma grand-mère, avec sa coiffe du Trégor, dansait la dérobée. C'est la seule chose qu'elle dansait, que je l'ai vue danser, mais c'était la dérobée. Bon, voilà. Ça, c'est des sérieux à la Saint-Loup. Bon, ben, la dérobée, je l'ai appris depuis, relativement récemment, enfin, une vingtaine d'années. C'est une tarentelle ramenée d'Italie du Nord par des soldats guingampais de l'armée napoléonienne. Et donc, ils sont en Italie du Nord, ils apprennent une tarentelle, voilà, ça leur plaît, ils ramènent ça, et dans les fermes, les hameaux, les fêtes de voisinage, on a appris une danse en Italie, elle est pas mal, hop, ils apprennent ça, et puis ça prend. Ben, aujourd'hui, aller à Guingamp, tout le monde est persuadé que la dérobée est la danse traditionnelle, ça vient de la nuit des temps, on danse toujours, on danse ça à Guingamp. C'est une tarentelle qui est arrivée là au début du 19e siècle. Bon, voilà. Alors après, les gens qui la dansaient étaient en coiffe, en costume, tout ça, donc ça a été approprié et c'est devenu la dérobée. Bon, voilà. Des exemples comme ça, il y en a 50, 100. Dès qu'on soulève un caillou, on trouve une histoire comme celle-là. C'est ça aussi, les cultures dites traditionnelles, elles sont faites d'apports. C'est un bouquin qui n'est pas là, mais là je parle peut-être trop. J'ai rencontré un truc extraordinaire, et ça a amené un livre avec un imam, qui est l'imam national, l'aumônier national des prisons pour le culte musulman, et avec un évêque, l'évêque d'Oran à l'époque, qui est maintenant archevêque d'Alger. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une association qui nous avait invités tous les trois dans une chapelle qui s'appelle la chapelle des Sept Saints au Vieux Marché, près de Plouaret, près de Lannion. La chapelle des Sept Saints au Vieux Marché. L'histoire est absolument extraordinaire et elle nous amène aussi à Germaine Tillion, d'ailleurs. Il y a là une chapelle qui est la chapelle des Sept Saints. C'est une petite chapelle comme il y en a 1000 en Bretagne. Une super petite chapelle au milieu des champs. Voilà. Pourquoi s'appelle-t-elle les Sept Saints ? Alors, les gens pensent que c'est les Sept Saints fondateurs de la Bretagne. Le légendaire breton dit que Sept Saints fondateurs ont fondé la Bretagne. Bon, bref. Des historiens s'intéressent. C'est pas ça du tout. C'est les dormants d'Éphèse. Les dormants d'Éphèse, dans l'histoire religieuse, sont retenus à la fois par le culte musulman, le Coran, et par le culte catholique. Tiens, bizarre. Il y a une chanson en breton qui raconte l'histoire des sept saints, une guerze. que de nombreux chanteurs traditionnels bretons, qui est chanté tout au long des siècles, la Gwerz des Sept Saints. Et un collecteur, à la fin du 19e, Luzel, François-Marie Luzel, collecte ce chant traditionnel du pays de Plouaret, du pays de Lannion, le Gwerz des Sept Saints. Et donc, il l'a fait passer de l'oralité, chantée à la veillée, à l'écrit, Luzel. Et donc, le texte est fixé, et le texte va circuler. Et un spécialiste de l'islam, en 1954, Louis Massignon, qui est le maître de Germaine Tillion, le prof de Germaine Tillion, tombe sur cette Gwerz en breton, il y avait la traduction française, tombe sur cette Gwerz des sept saints, et c'est la sourate 18 du Coran. Et l'histoire est extraordinaire, parce qu'on est en plein pays catholique, bas breton, dans la région de Lannion, et pendant des siècles et des siècles, les bons catholiques, comme ma grand-mère à l'époque, peut-être connaissait-elle d'ailleurs, je ne sais pas, la Gwerz des Sept Saints, connaissaient ce chant traditionnel, c'était la sourate 18 du Coran. Alors on sait depuis, on imagine depuis, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, que des musulmans venant chercher de l'État dans ce qui est devenu l'Angleterre, sur les côtes sud de la Grande-Bretagne, ont dû faire naufrage, s'arrêter là, faire souche là, rester là, ne plus pouvant partir. Et puis ils ont fait racine. Voilà. Et ils ont amené des éléments de leur religion, dont cette prière... qui est lu à la prière du vendredi, la sourate 18 du Coran. Voilà. Et donc là, on est dans un lieu, c'est incroyable, c'est une chapelle catholique qui est porteuse d'une histoire musulmane. Et Louis Massignon, en 1954, découvre ça, vient aux Sept Saints, rencontre les responsables catholiques du lieu et décide de créer un pardon islamo-chrétien. En pleine guerre d'Algérie, ce pardon va naître, Germaine Tillion, etc., Louis Massignon, et ça a pris. Et ça a pris. Le troisième dimanche de juillet, depuis 1954, il y a un pardon islamo-chrétien dans cette chapelle de Plouaret. Ça s'est élargi aux athées au cours des années 80-90, et il y a 5-7 ans, je suis invité à venir parler de la fraternité dans la République. Un imam est invité à parler de la fraternité dans le Coran. Et un évêque à l'époque, archevêque depuis, est invité à parler de la fraternité dans l'Église catholique. Et on se rencontre là. On ne se connaissait pas. Et on tombe en amitié, tous les trois. Une découverte. Ah, l'imam, c'est un saint homme. Je lui ai dit ça un jour, ça l'a fait marrer, parce que saint homme, pour un musulman, c'est... Il dit, c'est plutôt aux catholiques qu'il faut dire saint homme. Et je lui dis, mais toi, t'es un saint homme. Bon, bref, c'est vrai que c'est un saint homme. Et on a fait un bouquin sur la fraternité, justement, tous les trois. Mais c'est né d'un lieu inouï, enfin, voilà, qui n'est pas assez connu. Et dans les troubles du monde d'aujourd'hui, ça serait bien de le connaître davantage et de connaître ce pardon où vous voyez des imams qui viennent de tout le monde musulman, hein, et des évêques qui viennent de tout le monde catholique, d'Afrique, d'Amérique latine, etc. Et voilà. Et il y a une journée ensemble, quoi. C'est pas mal. Une journée ensemble.
C'est curieux, parce qu'effectivement, il y a d'autres chapelles ou d'autres églises où, paradoxalement, c'est au niveau du mobilier, enfin, ou des murs, hein, du traitement des murs, où en fait on est sur des enduits cirés un petit peu comme en Afrique du Nord, qui ne sont pas en fait des techniques qu'on utilisait d'ici, oui. À Montherlant, notamment l'église, c'est une église ou une chapelle qui a ce... C'est, et on ne sait pas pourquoi.
Eh oui.
On ne sait pas pourquoi.
Oui, oui, mais il y a plein de trucs comme ça. Un des retables qu'on met en avant quand on parle de l'art religieux breton, le retable de Lampol Guimillot, un des magnifiques retables de Lampol Guimillot, il vient d'Anvers. Si vous prenez des bouquins sur l'histoire du mobilier religieux breton, vous verrez ce retable qui vient d'Anvers. Et des exemples comme ça, je vous dis, il y en a plein. Hein. Bon, les hortensias, ils ne viennent pas de Bretagne non plus. Et sur toutes les cartes postales qui sont en vente dans les maisons de la presse, pour la petite maison bretonne, vous allez avoir un hortensia. Mais bon, l'hortensia, il a fini par arriver ici, mais il n'est pas né ici. Quoi. Enfin bon, bref.
C'est un propos qui court dans ce livre-là et dans beaucoup d'autres que tu as écrit aussi, sur l'identité et sur le fait que nos territoires, c'est des territoires des appartenances de géographie, de valeurs, mais des territoires d'affection, de choix.
Oui.
Aussi, la question du choix, elle est déterminante dans l'identité.
Bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Il n'y a rien de pire que les assignations à identité. On est pluriel, ça, merci Mona Ozouf, composition française. On compose soi-même ses identités. Moi, j'ai le droit de dire que je suis passionnément breton, c'est le cas. Mais j'ai le droit aussi que je me sens passionnément français. Mmh. Voilà, et je suis passionnément européen, enfin, voilà, c'est mon choix. Alors, il y en a qui vont dire, je suis français avant tout, ben, c'est leur choix aussi. Enfin, les assignations, quand on part dans des assignations à religion, ou dans des assignations à identité unique, le pire n'est jamais loin. Et vive les identités composites, hein. Et on fait comme on peut. Hein.
Ça me fait penser à la chanson de Graham Allwright, Petite boîte. Petite boîte très étroite.
Faites antiquitaki.
Oui. Petite boîte très étroite. Faites antiquitaki. Petite boîte toute pareille.
Ah bah oui.
Et à la fin, on finit dans une petite boîte. Ils sont tous de l'université. On les met tous dans des boîtes.
Ouais.
Petite boîte. Ouais. C'est pareil.
Eh oui.
Voilà, c'est ça.
Et je crois que quand on arpente un lieu et quand on le partage avec du vivant, ici, on passe les clôtures en dessous, dessus, on les décroche, on les raccroche, on n'arrête pas. Il y a aussi un âne qui aime bien prendre la tangente, et on se rend compte que ces frontières, elles existent bel et bien. Moi, là où j'ai construit ma yourte, on a poussé, j'ai emprunté aux chevaux et aux ânes un petit bout de prairie. Qui, d'ailleurs, je me suis mise à peu près là où l'entier d'Axe, les talons, venaient manger. Bon, ça s'est bien passé, ça s'est fait petit à petit, et puis ces territoires ont été des lieux mouvants aussi. Et je trouve qu'on a une idée de la notion de frontière quand on entend ce terme qui est réapproprié politiquement, en tout cas pour l'essentiel dans les médias, ou médiatiquement, comme une limite, alors que c'est un mot qui est avant tout, sans doute, ou j'espère, un lieu de passage.
Oui, enfin, c'est toute l'histoire de l'humanité. Hein. Mm. On ne va pas développer ça maintenant, mais oui. Un lieu de relation.
Un lieu de relation, oui. Tu, enfin, l'être breton, l'identité, l'appartenance à un territoire ou l'appartenance à une communauté, à quelque chose où on se sent raccroché, en lien, en relation. Tu cites à un moment Guillou, qui parle de l'expérience, comme, de la culture comme une expérience, et une expérience qui nous précède aussi. Et si je ne me suis pas trompée, tu cites ceci, il suffit d'avoir vu mourir, d'avoir aimé, d'avoir trompé, d'avoir éprouvé l'inquiétude de ses fins dernières et connu la solitude. Et est-ce qu'il y a force, enfin, j'entends qu'il y a là, dans cette formulation, en tout cas, de l'épreuve dans une culture au sens d'éprouver. Et donc, est-ce que c'est cette épreuve de l'expérience ou est-ce que, comme dans cette citation, il y a aussi quelque chose qui est toujours de l'ordre d'une... d'avoir éprouvé l'inquiétude de ces fins dernières, c'est pas rien non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est aussi en relation avec ce qui peut se finir dans une culture ?
Ça, c'est une définition de Louis Guillou, pour contextualiser la chose. Louis Guillou s'interroge, qu'est-ce qu'on parle de culture ? Alors la culture, au sens du ministère de la culture, Malraux, c'est la création artistique essentiellement, le soutien, musique, danse, théâtre, etc. Mais la culture, ça peut être aussi la culture ethnologique, la culture anthropologique, c'est les langues, ce dont on parlait tout à l'heure, la relation à un territoire, des formes dites traditionnelles de culture, même si elles sont toujours évolutives. Enfin bon, voilà, ça c'est une deuxième acception. Et en fait, Guillou dit, mais la culture, être cultivé, c'est une somme d'expérience, en fait. Les arts peuvent nous apporter cette expérience, peuvent nous créer en nous du décentrement. Une œuvre, un film, un livre peut nous interroger et nous nourrir. La culture anthropologique, la culture maritime, la culture ouvrière, ça peut nous nourrir. Mais tout ça entre en nous et participe de ce que lui appelle culture, sa somme d'expérience. Il dit quelqu'un qui a vu naître et mourir, et qui n'a pas banalisé le fait, qui a profondément digéré son expérience, c'est quelqu'un déjà qui est assez cultivé. Et il a raison, je crois. C'est-à-dire que je prends souvent ça. Moi, j'ai été, vous le savez peut-être pas, peu importe, de toute façon, j'ai été vice-président à la culture de la région Bretagne pendant longtemps. Et j'ai beaucoup souffert de discussions avec des professionnels du monde artistique avec lesquels j'étais en léger déphasage. Et je pourrais citer des noms, parce que ça a été des fois des débats un peu chauds avec certains, parce qu'en gros, il y avait la culture d'en haut et la culture d'en bas, quoi, hein. Et donc la culture des gens avec des références, voilà, tu as vu le dernier, bon, Godard, bon, très bien, enfin j'exagère en disant ça, parce que bon, hein, enfin vous comprenez ce que je veux dire, culture d'en haut, et puis en bas il y a les ploucs, quoi, hein. Il y a les ploucs qui vont jamais au théâtre, quoi, bon. Alors moi je viens d'un monde, mes grands-parents, de ploucs. Ils ne sont jamais rentrés dans un théâtre. Par contre, je peux vous dire que mon grand-père, qui avait vu mourir 3 frères et 2 sœurs, et sa mère, il est beau ne pas être beaucoup allé, jamais au théâtre, et peut-être jamais au cinéma en plus, j'en sais rien. Il y avait 3 bouquins à la maison. Bon, il n'avait jamais lu de livres. Il n'avait jamais été au théâtre, jamais été au cinéma vraisemblablement. Mais en matière de culture, il avait vu vivre et mourir. Hein. Et je peux vous dire qu'il avait un bagage que je n'ai vraisemblablement pas. Hein. Bon. C'est ça que veut dire Guillou. Et je crois qu'il a raison, profondément. C'est-à-dire que la vie nous enseigne. Alors, moi j'ai la chance, comme beaucoup parmi vous vraisemblablement, je ne sais pas, moi j'ai la chance d'avoir eu accès à ces différentes formes de culture, au théâtre, au cinéma, au livre, aux cultures anthropologiques des marins de Douarnenez, etc., qui connaissent les vents et les bateaux, les houles, etc. C'est une culture. Et puis à la vie qui m'a apporté des bonheurs incroyables et des drames incroyables. Bon. Et donc, pour moi, ma culture, c'est tout ça. Et c'est certainement pas saucissonner et hiérarchiser les livres plus que... voilà. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Et c'est ça que dit Guillou. Et je crois qu'il a profondément raison. Être cultivé, c'est une somme de rencontres, en fait. Et dans ces rencontres, on met tout ce qui nous a marqué, en fait. Mais la mort d'un proche, ça nous marque profondément. Comme un livre peut nous marquer profondément. C'est pas la même chose, c'est pas comparable. Un grand film peut nous marquer, des chansons peuvent nous marquer. Bon, on est fait de tout ça, et on est fait aussi de petits riens qui participent à ce qu'on est, qui font qu'on est cultivé, des petits riens. On a des émotions du quotidien. Moi, je suis toujours passionné de sport, voilà. Et ben, devant un match de rugby, je vais brailler comme un veau, ben, ça me nourrit aussi, voilà. Et je revendique ça. Il n'y a pas que la culture d'en haut. On a le droit aussi à nos petites passions. Voilà. J'ai mon dernier bouquin, qui n'est pas là, donc, voilà, c'est sur Thibaut Pinot, un coureur cycliste, dont je suis tombé amoureux. Voilà. Un éleveur de chèvres, qui a une ferme. et qui est passionné par ses chèvres. Mais c'est un coureur cycliste. Et voilà. Bon. Et donc, j'ai... Voilà, et je pense qu'on est tous faits de tout ça. Voilà. Et il y a une forme de snobisme dans certains milieux artistiques que je déteste assez profondément, qui vise à gommer tout ça pour ne retenir que des formes, je ne sais pas comment les qualifier, suprêmes de culture. Oui, bien sûr, Albert Camus, mais évidemment, ouais, mais le paysan d'à côté, il peut m'apprendre aussi. Voilà. Fin de parole.
Il y a un texte. Ben oui.
Et la mère d'Albert Camus était illettrée, d'abord.
Ouais. Il y a un travail qui a été fait, un texte qui a été porté, les droits culturels, il y a longtemps maintenant, quand même, presque une quinzaine d'années. Et j'ai toujours été étonnée quand j'intervenais à l'université à Quimper, dans en métier du patrimoine. Les étudiants ne connaissaient pas ce texte. Qui justement, alors on parle de façon plus institutionnelle que ce que tu viens de faire et ce que l'on retrouve au travers de ce livre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, pour lequel c'est un vrai remerciement. Il n'y a pas de zone blanche de la culture, quoi. Il n'y a pas d'endroit où ça ne peut pas être couvert, parce que c'est la condition de l'humain, tout simplement.
Mais évidemment.
Et puis ce texte, il prône vraiment un changement de paradigme, alors qu'il n'a sans doute pas encore atteint toutes les sphères artistiques, politiques, les institutions entre autres, mais pas que nos mentalités certainement aussi, à tout un chacun, donc on a cette responsabilité aussi. Et le paradigme est tout simple, et je trouve qu'il tient en un mot qui fait relation, c'est avec.
Oui.
C'est, la culture, c'est avec, c'est pas pour. Et c'est vrai que la loi de décentralisation de 82 nous... a redescendu pas mal de possibilités, de possibles dans les régions, dans les départements, c'est une belle chose, mais on était en train, en tant qu'institution, de continuer à faire pour. Donc, aller, il n'y a pas de musée dans cette ville-là, donc on va proposer quelque chose pour les gens. Et ce texte-là, assez fondamental, je trouve, qui rassemble en fait dans tous les textes des droits humains qui ont pu être écrits jusque-là, des droits de l'homme aux droits de l'enfant, tout ce qui concerne les droits culturels et qui sont synthétisés en un seul, et qui vraiment permettent de fonder ce changement de paradigme de la culture, c'est avec, c'est pas pour. Voilà. En tout cas, si c'est pour à l'intérieur d'avec, mais c'est pas sans avec. Et avec, c'est de la relation.
Je partage.
Donc, c'est une approche plus institutionnalisée maintenant, institutionnalisante, parce qu'elle est encore... figée en loi, mais...
Je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, je suis ravie. J'ai refait un bond 15 ans en arrière. Et je bois à nouveau les paroles. C'est toujours aussi magique parce que c'est raconté avec passion. Et c'est super.
Merci.
Et ça fait beaucoup poser des questions et ça remet les choses un peu des fois aussi à sa place. Donc merci beaucoup.
Alors,
merci
je vais faire un truc très incorrect devant vous. Vous m'en excuserez. Mais je ne t'ai pas vu depuis très très longtemps et j'aimerais bien savoir ce que tu deviens. Alors, ça ne va pas être devant tout le monde, mais tu vas me laisser un moyen de te contacter.
Oui, eh ben, je te...
Voilà.
Je vais faire un petit papier.
Ouais. Ouais. Bah, excusez-moi.
J'en ai un là, si tu veux. Super,
j'ai un prénom. Ça va.
Je pense qu'un. J'avais envie de terminer sur quelque chose, moi, qui m'a fait beaucoup rire. Quand Mona Ozouf te traite de mijaurée, je trouve ça génial. Désolée. Alors, à un moment, Mona Ozouf dit à Jean-Michel, écrivez un roman, vous en êtes capable, adressez-le-moi et arrêtez de faire votre mijaurée. Moi, je trouve ça truculent parce qu'évidemment, on ne vit pas, on imagine bien que c'est pas forcément facile à...
Oui, oui,
c'est féminin. Et c'est féminin, j'adore.
Mais Mona Ozouf, c'est une femme, c'est quelqu'un pour qui j'ai le plus haut respect, évidemment. Mais alors, une fois que j'ai dit ça, je vais commencer une phrase en disant « mais », donc c'est pas bien. Elle a un comportement, des fois, elle est raide. Hein. Et elle a un comportement d'instit un peu. Moi, j'ai vraiment respect et affection pour Mona Ozouf et tout. Et son œuvre est considérable. Merci beaucoup, c'est trop bien. Et à bientôt.
À bientôt.
Et, mais des fois, j'avais l'impression d'être gosse en classe primaire avec elle, où on, elle dit « mettez vos mains comme ça, paf, un coup de règle !» Bon, voilà. Et, mais je lui dois beaucoup. Et je raconte une anecdote, effectivement, parce que c'est autour de l'usage du mot « écrivain ». C'est un mot qui a été pendant très longtemps beaucoup trop gros pour moi et je ne l'utilisais jamais. Et je me refusais à l'utiliser parce qu'écrivain, c'est Louis Guillou, quoi. Enfin bon, c'est Camus. Bon, moi, je fais de mon mieux, mais je suis un petit artisan. Enfin bon, bref. Ouais, j'écris, c'est sûr, mais écrivain, bon. Et puis, un jour, Mona Ouzouf, dans une conversation, on est tous les deux. Et je vois encore la scène, ça m'a vraiment traumatisé. Elle dit bah, des écrivains comme vous et moi. Et là, je l'arrête et je lui dis non, Mona, vous pouvez pas dire ça. Vous, évidemment, votre maîtrise de la langue française est telle que vous êtes une écrivaine, une grande écrivaine, mais moi, certainement pas. Et elle me dit bah, qu'est-ce que vous faites là ? Et elle avait lu ce livre, et elle m'a dit l'avoir lu deux fois. Et elle prend référence ce livre, et elle me dit, mais j'ai lu Être breton, je l'ai même lu deux fois, et c'est un vrai travail d'écrivain. Alors là, je me débat, et puis je lui dis, mais non, Mona, non, vous pouvez pas dire ça, non. Mais c'est quoi un écrivain, alors ? Alors là, je suis face à Mona Ouzouf, donc... on se débat comme on peut, et puis je lui dis, bah non, c'est quelqu'un ou qui a la maîtrise de la langue française que vous avez, ou quelqu'un qui écrit des romans, mais qui des romans qui portent, quoi, des vrais romans. Elle me dit ça. Écrivez un roman, adressez-le-moi, arrêtez de faire votre journée. Et maintenant ça suffit. Bon, voilà, bon. Et alors, ce qu'elle ne sait pas, parce que j'ai même pas osé lui dire, c'est que ça faisait 10 ans que j'essayais d'écrire un roman. Et que j'arrivais pas parce que je coinçais, et que j'arrivais pas. Et elle m'a vexé, et comme je suis orgueilleux ou vaniteux ou je sais pas quoi, enfin j'ai plein de défauts, je suis sorti de cette discussion avec Mona Ouzouf en disant, ben, je vais le faire. Et je vais lui adresser le manuscrit, et puis voilà. Voilà, et donc c'est un roman qui s'appelle « Des printemps en Bretagne » où je me suis vengé, j'ai mis son père dedans. Yann Soyer, le père de Mona Ouzouf, qui devient un héros secondaire de ce roman. Voilà. Et puis je finis le roman, et puis je l'envoie à Yvon Lemaine, qui est un ami, poète. Yvon Lemaine, que vous connaissez peut-être, écrivain et poète. Et puis je lui dis de me corriger, et puis bon, on fait le travail, et puis arrive un moment, c'est bon, c'est fini. Donc je l'envoie à Mona Ouzouf, et puis elle a mis une éternité à me répondre, soit peut-être 15 jours, je ne sais pas, ou 3 semaines peut-être, enfin c'était long, et moi je me touche, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Et puis elle m'a répondu, je vous l'avais bien dit, mais je n'aime pas qu'on parle de mon père dans tes... Voilà, et donc, pour moi, c'était la Légion d'honneur, hein, recevoir ça, enfin, c'était un truc incroyable. J'avais quitus de Mona Ouzouf pour publier un roman, et du coup, ça m'a soulagé, puis j'ai fait ça après, mais c'est grâce à Mona, en fait, parce qu'elle m'a décoincé. Jusqu'alors, j'avais une écriture universitaire, j'avais besoin d'avoir 150 références bibliographiques et 3 notes de bas de page à chaque page, parce que j'avais pas confiance, parce que j'avais besoin d'être étayé, parce que quand on est universitaire, c'est assez pas mal, c'est planqué un peu, enfin pas tous, il y a des grands, mais c'est qu'on a les notes de bas de page, on a toutes les références, et on se cache un peu derrière tout ça, et donc, voilà. Et là, maintenant, j'ai plus de notes de bas de page dans mes bouquins, et je m'autorise à écrire à Thibaut Pinot, coureur cycliste, qui s'en fout peut-être d'ailleurs, mais bon... Et puis, c'est grâce à Mona. Oui. Et donc, merci Mona Oussouf.
Voilà. C'est ce que je me suis demandé à un moment, si l'écriture universitaire, elle n'était pas dans... Enfin, elle est faite pour donner à comprendre, pour introduire
c'est
à
autre
ça.
Chose.
Et puis, le roman, la fiction, ou peut-être déjà le récit, c'est quelque chose où on n'est plus nu parce qu'on donne à sentir, à ressentir, à vivre.
Oui, mais on est beaucoup plus libre aussi. Alors, c'est à la fois plus difficile parce qu'on est à poil, mais c'est aussi beaucoup plus libre. Mmh. Et on peut se permettre de parler de ses sensations, de ses sentiments, et on peut parler du vent. Mmh. Dans un bouquin universitaire, c'est plus dur de parler du vent. Mmh. Voilà. Donc maintenant, je m'autorise à parler du vent. Grâce à Mona Oussouf.
Je te rassure, dans le cadre universitaire, je me souviens qu'au début de chaque cours, tu nous demandais si on avait des fulgurances. Et là, évidemment, on pouvait parler du vent si on le souhaitait. Ah oui. Personne n'osait le faire.
Mais si, mais... il y en a qui ont osé.
Oui, ouais. pas dans mon groupe. Mais, enfin, ou peu peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, oui, il y avait quelque chose déjà de cette forme-là, dans le cadre universitaire, quand même.
Mais là, il va falloir arrêter parce que les gens commencent à être malades.
Eh ben, je vais te remercier, alors non pas par une stèle, mais auf Deutsch. Ich danke dir, dass wir so viele Gedanken geteilt haben. Gedenken, danken, denken, c'est remercier, penser. Et Gedenken, ce sont les pensées. Donc ce sont vraiment des mots très très proches en termes de racines que tu soulèves.
Et je raconte ça quelque part.
Et tu le racontes voilà, dans les stèles. Et d'où ce petit clin d'œil.
Merci beaucoup.
Je suis revenue avec cette langue. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez des questions.
C'était un très grand moment.
Un voyage passionnant.
Ouais.
Merci beaucoup.
Plein de modestie.
Dans une espèce de justesse. D'évidence, mais qu'il est bon de rappeler, de choses qui résonnent, enfin pour moi en tout cas, très fortement dans une histoire, dans une des saveurs, des bruits, et une vie quoi. Une vie.
Alors merci. Ça c'est le merci beaucoup pour ce que vous dites, et bon, j'ai écrit plein de livres, mais celui-là m'a même des retours qui sont très émouvants. J'ai reçu des lettres, des mails ou des messages de gens qui racontent leur vie. C'est-à-dire que qui rebondissent sur tel passage, et puis moi aussi, et hop, et ça part, et j'ai jamais raconté ça, comme des boîtes de Pandore. Et c'est super d'avoir des retours comme ça qui sont où des gens se livrent. J'ai beaucoup plus de retours de gens qui se livrent eux-mêmes que pour d'autres livres. Voilà.
Et où peut-on se procurer ce livre?
Dans n'importe quelle librairie.
Ah bon, d'accord.
En commande. Voilà.
Alors dites au libraire de commander chez Cobbrez et pas forcément directement chez l'éditeur.
Ouais, parce que j'ai appris tout à l'heure que j'avais un éditeur qui répondait lentement.
Je suis peut-être tombée au moment où il est sorti et peut-être qu'il y avait un flux plus compliqué. Je ne sais pas, parce que je l'ai acheté, je l'ai commandé en novembre ou décembre l'année dernière et je l'ai reçu début janvier.
Je l'apprends.
Alors, il a sans doute été sous tous les sapins de Noël, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être...
Si, j'en ai trois. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas ici, et j'en avais trois à la maison. Donc, j'en ai trois.
Voilà, c'est faux.
Et du coup, j'en ai trois.
On a un peu imité Sophie avec ses petites notes, mais ça nous a nourri toute une période, l'idée de te recevoir. Ça nous occupe depuis un moment. Enfin, c'est aussi un grand enthousiasme en fait, pour nous de pouvoir avoir ces temps de rencontre et ces échanges et toute cette justesse en effet.
Merci beaucoup.
C'est quelque chose sur quoi on peut travailler. Du coup, là, il y avait tellement de matière en fait. Là, c'est tellement riche qu'évidemment, plein de petites notes. Mais je pense que ça fait aussi partie de. parce que je trouve ce qu'on est fait ici, tout ce qu'on trimballe, qui vient un peu partout aussi, c'est ce côté éponge, là, on a plein de trucs partout ici, parce qu'on garde tout, en fait, et que ça nous nourrit, et que ça doit nous nourrir tout l'hiver ensuite, donc c'est bien qu'on en ait beaucoup aussi. C'est parti de...
Ben merci.
Tout ce qu'on sait, en tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment... Très chouette lecture, un très bon moment.
Je voulais dire qu'en fait, je viens de finir de visionner un film qui s'appelle Perfect Day.
Ah oui.
Ah oui.
Dans lequel c'est un monsieur qui nettoie les toilettes publiques au Japon et qui tous les matins se réveille, ouvre sa fenêtre et regarde et sort de chez lui, regarde le ciel. Et puis il part travailler et il accomplit ses tâches qui sont absolument ingrates. Il rencontre d'autres personnes, il les écoute, il parle très peu. Et tous les jours, on le voit sortir de chez lui, donc les saisons avancent et puis il regarde le ciel. Et ce que j'ai entendu ce soir me fait penser à ce qui est dit dans ce film, quoi. C'est capter l'aurore chaque jour et ça suffit.
Et le film, on le trouve facilement?
Perfect Day.
Perfect Day. Et il y a, c'est comment elle s'appelle? C'est Nina Simone qui, la bande sonore est de Nina Simone.
C'est japonais, ça se passe à Tokyo.
Ça se passe à Tokyo, je ne sais pas quel est le. Je pourrais le dire.